France Musique. France Musique, les grands entretiens. Laurent Villarem.
Je m'appelle David Grimal. Je suis né le 9 février 1973 à Châtenay-Malabry. Et je suis violoniste et chef d'orchestre, pas comme les autres.
Bonjour David Grimal.
Bonjour.
Nous sommes ici chez vous, près de Ménilmontant. Alors je voulais commencer les grands entretiens par un cadeau, car j'ai un cadeau pour vos enfants. Vous en avez deux, je crois.
J'ai deux enfants.
Oui, ouais, ils ont quel âge?
Ils ont 7 et 9.
C'est les cigares du pharaon de Tintin. Mais ils l'ont déjà, vous m'avez dit? Ils l'ont déjà?
Oui, ils sont des grands consommateurs de BD, mais ça leur plaira certainement de retrouver les aventures du pharaon kiosque.
Je vous offre ça, car votre père était égyptologue.
Il est égyptologue.
Il est toujours égyptologue, on l'est à vie.
Absolument.
Et la légende, ce qui est plutôt la réalité, veut qu'entre 5 et 8 ans, vous ayez grandi au milieu des pyramides de Gizeh.
Voilà, enfin au milieu des temples, des pyramides et des tombes dans lesquelles je courais quand j'étais petit, puisque j'avais la chance de pouvoir aller sur tous les sites d'Égypte avec mon père.
Mais ça ressemblait à quoi les pyramides début des années 80?
Ah ben, la ville n'allait pas jusqu'au pied des pyramides, donc on traversait une palmeraie, des champs, et puis on arrivait aux pyramides, c'était assez extraordinaire. Et j'ai des souvenirs assez merveilleux. J'y suis retourné bien plus tard et là j'étais claustrophobe et il a fallu que je ressorte.
Et vous êtes entré à l'intérieur d'un tombeau, vous avez fait des choses un peu interdites?
Oui, interdites non, mais qui n'étaient pas forcément ouvertes au grand public, oui.
Vous avez un exemple?
J'ai des tas de souvenirs, je sais pas si j'ai des exemples, mais j'ai des tas de souvenirs d'avoir eu la chance d'aller sur ce qu'on appelle les chantiers de fouilles sur tout le territoire égyptien et vraiment d'avoir vécu un âge d'or comme ça.
Vous avez souvent évoqué le trajet de votre appartement au Caire pour aller vers les pyramides. Et dans la voiture familiale, votre père passait de la musique. Est-ce que vous pouvez nous mettre dans l'ambiance?
C'était pas le trajet pour les pyramides, parce que mon père ne travaillait pas aux pyramides de Gizeh. Hein, il travaillait un petit peu partout, mais c'était quand on se baladait dans le désert, quand on allait à la mer, etc. Effectivement, il y avait toujours de la musique. Alors, je vois les lumières dans le désert, je vois le coucher de soleil sur les marais salants. Quand on arrive sur la baie d'Alexandrie, j'ai une image tout à fait précise des reflets de la lumière en écoutant le concerto pour mandoline de Vivaldi. Voilà, je me souviens d'un oiseau qui dansait sur la mer Rouge, un héron qui dansait au son de la fantaisie de Schubert pour violon et piano. Je me souviens de ces choses-là.
David Grimal, j'ai lu que cette période n'avait pas été ce paradis si enchanté, que vous aviez aussi connu la solitude et la nostalgie. Est-ce que vous étiez un peu isolé? Est-ce que c'était une enfance un peu hors norme de vivre aux côtés de son père égyptologue?
Et de sa maman aussi. Mais c'était une enfance à la fois très riche et faite de souvenirs aujourd'hui merveilleux. Et en même temps, c'est vrai que c'était une solitude, parce que j'étais coupé de mes copains, de mes cousins. Et dans un autre monde, et comme j'étais fils unique à cette époque-là, puisque ma petite sœur est arrivée quand j'avais 7 ans, il y avait effectivement de la solitude et de la nostalgie. Puis après, une histoire familiale qui n'était pas forcément simple.
Vous aviez des amis? Ou c'était vraiment une sorte de solitude d'enfant, rêveur?
J'étais la première année, j'étais chez les jésuites dans une école au centre du Caire. Puis après, il y a eu une nouvelle école primaire qui s'est construite au moment où j'étais là, en fait, dans laquelle ma mère enseignait l'anglais, du coup, à l'ouverture. Et je me souviens d'avoir eu quelques camarades, mais je me souviens pas d'avoir noué des amitiés particulièrement fortes à cette époque-là. Et donc, j'étais effectivement un enfant assez solitaire.
Nous sommes chez vous et il y a pas mal d'objets africains. Par exemple, vous êtes assis sur un fauteuil africain.
Oui, je ne sais pas si pour l'instant il y a beaucoup de peintures de ma femme partout. Il y a des bouquins, plein de bouquins, il y a plein de disques, il y a une vieille radio que j'ai achetée en Argentine. Il y a un instrument coréen qui a été offert par un de mes étudiants, un instrument de musique traditionnel. Une espèce d'instrument à percussion là-bas que j'ai acheté l'autre jour pour mes enfants. Qui fait des sonorités merveilleuses. Une trompette sur le piano, parce que mon fils s'est mis à la trompette. Une flûte à bec pour ma fille, un grand piano. Des violons de toutes les tailles partout. Des peintures de mes amis peintres. J'ai plusieurs amis peintres qui m'ont offert des peintures. Il y en a un peu partout, elles parsèment le salon. Quelques cactus, parce que ma femme aime bien les cactus. Effectivement, il y a des objets oui, qui viennent...
C'est un appartement peuplé.
D'un peu partout, oui, c'est une maison vivante. Très vivante, très chaleureuse.
Votre grand-père était également versé dans les cultures anciennes, puisqu'il est un grand latiniste, je crois.
Oui, mon grand-père, enfin j'ai deux grands-pères qui étaient l'un latiniste, l'autre qui était helléniste. D'ailleurs, quand mon père et ma mère se sont rencontrés, c'était le fils de Pierre Rimal et la fille de Jean de Fradas, qui étaient collègues à la Sorbonne, qui se rencontraient aussi.
Donc vous avez la passion des langues mortes, vous aussi?
Non, j'ai pas la passion des langues mortes, j'ai pris un autre chemin. Mais j'ai baigné effectivement dans cette culture, dans l'histoire, dans le rapport à l'histoire. Et peut-être c'est quelque chose dont on parlera.
Mais à quoi ça ressemble de grandir dans une famille de grands intellectuels? Par exemple, est-ce que c'est quoi les conversations? Ça parle que de choses très, très sophistiquées?
Moi, ce que je garderai comme souvenir de mon enfance, c'est d'avoir eu la chance d'avoir accès à des tas de mondes passionnants, parce qu'il y avait mon père et ma mère, mais il y avait mes oncles et mes tantes. Il y a des mathématiciens, des professeurs d'histoire, des professeurs de latin, des professeurs de français. Dans ma famille, effectivement, il y a ce côté intellectuel, mais surtout de ces personnes qui sont dans la transmission, dans l'enseignement, dans la recherche. Et donc, je considère que j'ai eu une très très grande chance de baigner là-dedans.
Mais est-ce que ça vous oblige à réussir, à être intelligente, tout simplement, à faire quelque chose d'important? Peut-être. Est-ce que vous avez le droit d'être un loser avec une telle famille?
Mais je ne sais pas si ce sont des winners, parce que les intellectuels dans notre société ne sont pas particulièrement dans le camp des winners. Hein. Ce ne sont pas des gens qui gagnent beaucoup d'argent, ce ne sont pas des gens qui ont du succès, ce ne sont pas des gens qui ont forcément une reconnaissance. Et je crois que la société dans laquelle étaient mes parents et mes grands-parents était beaucoup plus... je dirais que les intellectuels étaient beaucoup plus au centre. Aujourd'hui, c'est presque une situation de handicap d'être un intellectuel. On est presque rejeté parce que c'est trop compliqué, donc c'est pas forcément vendeur. Donc je suis pas certain, justement, que la position dans laquelle j'ai été élevé, et peut-être dans laquelle je suis également parce que je ne renie rien de cet héritage, soit une position qui mette dans un camp de winner, comme vous dites. Thank you.
égyptologue et plus rarement de votre mère. Que faisait-elle? Vous avez dit qu'elle était professeure d'anglais.
Professeure d'anglais, ma mère, absolument. Et elle a été très présente aussi comme mère et elle l'est aujourd'hui comme grand-mère.
Qu'est-ce que vous pourriez dire sur ce qu'elle vous a apporté?
Ma mère, elle m'a apporté son amour, elle m'a apporté sa présence, elle a apporté l'exigence aussi, le suivi, tout ce qu'une mère peut apporter au moment décisif de l'éducation où il faut, où on est un peu perdu et où on a une écoute bienveillante, on a une présence et un accompagnement. Donc elle était, d'une certaine manière, plus présente que mon père. Je dirais que la musique classique, ça vient plutôt du côté de ma mère, en réalité, puisque ma grand-mère était pianiste. Elle n'était pas pianiste professionnelle, mais c'était une excellente pianiste qui jouait avec le quatuor Löwengut à l'époque, dans la Deuxième Guerre mondiale. C'était un quatuor assez important. Et ma mère avait fait un tout petit peu de violoncelle, et son frère, qui joue du violon, il est un violoniste amateur de très grand talent, n'a jamais été professionnel non plus, mais la musique a toujours une présence du côté de ma mère. Donc je dirais que si je suis musicien aujourd'hui, c'est plutôt, alors c'est pas par la volonté de mes parents, puisque c'est quelque chose que j'ai décidé, que j'ai choisi, que j'ai mûri dans mon parcours, mais si j'ai eu cet accès à la musique, c'est plutôt grâce à la famille du côté de ma mère et à ma mère.
Votre sœur Alexandra est une grande saxophoniste jazz. Est-ce qu'il y a une malédiction chez les Grimal à devenir musicien?
Pourquoi une malédiction?
Et encore vos enfants poursuivent la malédiction?
Non, je ne sais pas si c'est une malédiction, c'est une drôle de manière de le mettre en perspective. Peut-être c'est une bénédiction. Oui, Alexandra, elle est non seulement saxophoniste, mais maintenant elle est compositrice, hein, plus que saxophoniste encore. Et elle s'exprime dans beaucoup de domaines esthétiques. On a des trajectoires très très différentes. Pour elle, comme pour moi, c'est plutôt une bénédiction qu'une malédiction, même si ce sont des métiers difficiles.
France Musique, les grands entretiens de David Grimal.
Est-ce que dans votre famille, il y a des rebelles, des gens qui prennent leur liberté?
Mon père m'a toujours dit, quand j'étais petit, quand je me dressais devant les injustices de la société, les injustices du monde, il me disait, si tu veux changer les choses, il faut que tu rentres à l'intérieur du système, et là tu pourras les changer. Alors mon père, il était rebelle quand il était jeune, puisqu'il balançait des pavés avec le livre de Mao dans la main en 1968, mais il a fait un peu comme la publicité pour le combi de Volkswagen, où il y avait, dans les années 60, il y avait le combi avec les roses, et puis dans les années 90 ou 2000, il y avait le van gris avec les vitres teintées, voilà ce qu'ils sont devenus. Donc il a suivi ce chemin également. Il a peut-être changé des choses dans son métier, parce qu'il est au sommet de son métier et à l'intérieur de son métier. Peut-être que j'ai pas l'intelligence politique et la souplesse dont il a su faire preuve pour arriver au même endroit, c'est vrai.
En Égypte, c'est là où vous commencez à étudier la musique avec le professeur de guitare de Claude François.
C'est une anecdote, elle est quand même extrêmement drôle. Puis c'est vrai que quand on pense, des violonistes comme Wengerhoff ou Repine, qui ont passé leur enfance enfermés à travailler à Novosibirsk avec Zakhar Braun, c'est sûr qu'il y a un décalage que je trouve amusant, c'est pour ça que j'en parle, mais ça reste anecdotique. Enfin, ce qui est anecdotique, c'est qu'il soit le prof de guitare de Claude François. Ce qui n'est pas anecdotique, c'est que pendant mes premières années, en réalité, je n'ai pas travaillé mon violon du tout. Et j'étais pas du tout dans un cadre propice, en fait, à ce que je suis devenu plus tard. Je m'évertuais surtout à passer mon temps à lui faire démonter mon métronome pour qu'on fasse vraiment rien pendant le cours. Mes enfants essayent de faire la même chose avec moi quand ils font faire du piano.
Est-ce que vous avez une chanson préférée de Claude François qu'on pourrait faire écouter à nos auditeurs?
Alexandrie Alexandra, puisque ma petite sœur, elle s'appelle Alexandra.
Je suis dans ta vie, je suis dans tes bras, Alexandra, Alexandrie, Alexandrie, où l'amour danse avec la nuit. J'ai plus d'appétit.
Mais votre rapport au soleil et à la culture, est-ce qu'il vous a formé quand on grandit au soleil? Qu'est-ce que ça implique? pour sa vie d'adulte plus tard.
Ouais, c'est vrai que je regrette que la musique classique, en général, s'arrête là où il commence à faire vraiment très beau. J'enseigne en Allemagne, dans une Hochschule à Saarbrück, qui est une ville tout à fait sympathique et dans laquelle je me sens très bien. Mais si c'était au sud de l'Espagne, je serais très content également. Non, mais c'est vrai qu'il y a cette nostalgie un tout petit peu de la lumière, des odeurs. J'aime beaucoup la Méditerranée. Quand je sens les odeurs de la Méditerranée, par exemple quand il y a du vent de sable, parfois qui apporte du sable sur Paris, on voit les voitures qui sont couvertes de sable, il y a des odeurs typiques de mon enfance qui remontent jusqu'ici, qui traversent la mer.
Je voudrais vous faire parler de la Roumanie et d'Enesco. Est-ce qu'il y a ce rapport au soleil ou pas trop? C'est plus l'Europe centrale?
Non, pour moi, l'Europe centrale, alors c'est la Roumanie. Il se trouve que la Roumanie tient une place importante dans ma vie.
Car votre femme est roumaine.
Ma femme est roumaine. Et donc, j'y ai maintenant des attaches très très fortes. Mais je dirais que c'est l'Europe centrale. C'est le cœur de l'Europe, avec toutes ces musiques traditionnelles, tous ces chants, tout ce carrefour, en fait, d'influences orientales, proche-orientales, lointaines, indiennes. Tout ce qui est arrivé là, en fait, tout ça me parle énormément.
Vous venez de faire paraître chez la Dolce Volta un disque avec le concert roumain d'Enesco. Il y a dedans des passages très orientalisants.
Enescu, d'ailleurs, il ne faut pas dire Enesco. Les Roumains le prennent très mal.
Ouais.
Enescu est un personnage qui me fascine, qui me fait du bien depuis très jeune. Parce que c'était à la fois un grand artiste et puis c'était un chic type. C'était quelqu'un de bien. Et pour moi, c'est très important que l'artiste et l'être humain s'accordent quand même.
C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a fait pour soit un chic type ?
C'était quelqu'un de très généreux, qui a aidé beaucoup de gens, qui a enseigné d'une certaine manière extraordinaire, qui a apporté énormément, qui a beaucoup donné, qui a beaucoup rayonné, qui a beaucoup partagé. Et qui est allé plus loin que juste son plan de carrière ou son ambition personnelle. Tous les gens qui ont eu la chance de l'approcher, que j'ai connu directement ou par des témoignages indirects que j'ai pu lire, ont été marqués à vie par la chaleur et la générosité et la spiritualité de cet homme.
Voilà. Et il était également compositeur. Est-ce que vous...
Grand compositeur.
Ouais. Est-ce que vous-même, la composition, ça vous a taraudé ou jamais?
Jamais, parce que je ne peux pas m'imaginer composer après tous ceux que j'étudie, après tous les maîtres avec lesquels je passe mes journées. Je me sens absolument incapable de Enfin, je me sens pas autorisé, tout simplement, à exprimer quoi que ce soit à ce niveau-là. Et ma place est plutôt à les côtoyer, à les aimer et à les transmettre.
Vous avez 8-9 ans, vous rentrez du Caire en France. C'était en quelle année ?
81.
Ah, il se passait des choses à ce moment-là en France en plus.
Ouais.
La musique a grandi petit à petit, ça s'est fait de façon plutôt naturelle.
Je ne sais pas si c'était complètement naturel, mais je jouais énormément au tennis à l'époque. Donc, je passais mon temps sur les courts de tennis. On habitait une résidence à Antony, où il y avait des bars d'immeubles qui mélangeaient à l'époque. C'était d'ailleurs formidable. La population était extrêmement mélangée. Tous les milieux sociaux se retrouvaient à peu près là. Et puis, il y avait un club de tennis dans lequel je passais ma vie.
Vous avez été classé ?
Non, je n'étais pas classé.
Et vous êtes quel genre de joueur ? Si on fait la comparaison, vous êtes l'adversaire qui renvoyait la balle, comme de la musique de chambre, ou alors vous aimez le déborder, contrer ses trajectoires, vous êtes plus un joueur de fond de terrain?
Ah non, j'étais un attaquant, moi.
Ah, vous attaquiez, volait, tout ça?
Je tapais le plus fort possible et je cassais mes raquettes de rage.
Ah, vous avez... Avec le violon, il y avait ce même rapport, vous avez envie de le jeter contre le mur?
Non, ça, j'ai jusqu'à présent, j'ai réussi à ne pas le faire, mais non, avec le violon. Mais je pense, moi, je suis quelqu'un de très, très instinctif, en fait, très intuitif, et donc, effectivement, je pense que j'ai ce même rapport avec le violon qu'avec la raquette de tennis, le plaisir du geste, le plaisir d'une forme de chorégraphie, en fait. Donc, c'est vrai que je suis plus sensible à Federer, par exemple, qu'à d'autres.
Est-ce que l'apprentissage de la musique et du violon a été douloureux à ce moment-là encore, ou vous aviez des facilités ?
En réalité, j'avais beaucoup de facilités quand j'étais petit, mais j'avais pris un mauvais pli. Donc le moment où j'ai dû changer ce pli, ça a été très 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 dur. Et après, il a fallu que je retrouve les facilités. Et donc ça a pris quelques années pour que le sentiment de confiance revienne. C'est très intéressant, d'ailleurs, maintenant que je suis prof, ça fait 15 ans que j'enseigne, je vois les différents profils des étudiants, et quand on a quelqu'un de doué en face de soi, c'est très difficile, il faut lui donner confiance, il ne faut pas trop expliquer, il faut expliquer un peu quand ça ne marche pas, mais il faut sentir que la personne a juste besoin de sentir le fluide, la fluidité de la musique. Et quand on travaille avec un orchestre, c'est exactement la même chose. La manière dont on peut tout d'un coup créer de la fluidité chez 80 personnes ou 100 personnes et résoudre en fait une infinité de problèmes qui seraient de plus en plus nombreux si on cherchait à les résoudre un par un. Ça, ce sont des choses, évidemment, maintenant avec le recul, je vois ça, mais à l'époque, je ne peux pas vous dire qu'effectivement je sentais la facilité. J'étais dans une forme de schizophrénie entre le jeune adolescent qui venait de comprendre des choses et puis l'enfant doué en fait qui était toujours en moi.
Fandou est devenu grand soliste du concerto de Brahms en compagnie de son ensemble Les Dissonances. C'est ainsi que se referme le premier épisode des Grands Entretiens avec David Grimal, une émission réalisée par Gilles Blanchard, prise de son Laurent Macchietti, mixage Claire Levasseur, attaché de production Marie-Christine Ferdinand. Demain à la même heure, deuxième épisode de ce portrait. Les Grands Entretiens sont à retrouver en podcast sur le site francemusique.fr.
À réécouter sur francemusique.fr.